RMC jusqu'à 14h. Motors. Laurent-Frédéric Bollet.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Motors, l'actualité des sports mécaniques tous les dimanches sur RMC. On est ensemble jusqu'à 14h. On parlera bien sûr MotoGP, sixième manche de la saison 2018. Tout à l'heure en Italie, et si vous ne le savez pas encore, sachez que c'est Valentino Rossi lui-même qui a signé la pole position. On parlera également endurance, car c'est aujourd'hui qu'a lieu la journée test en prélude aux 24 heures du Mans qui auront lieu dans 15 jours. Fernando Alonso, Jenson Button roulent donc en ce moment même dans la Sarthe. Ce seront les deux grandes vedettes des 24 heures 2018. Dans quelques instants, un invité prestigieux, Thierry Neuville, leader du championnat du monde des rallyes. Il sera avec nous en direct pour nous parler de son duel avec Sébastien Ogier en WRC. Mais on va commencer, si vous le voulez bien, par la Formule 1. Et on va débriefer le Grand Prix de Monaco qui a eu lieu le week-end dernier. C'est Jean-Luc Roy qui est avec nous aujourd'hui. Salut Jean-Luc.
Salut LFB, bonjour à tous.
Voilà, il y a des choses à dire sur ce Grand Prix de Monaco.
RMC Motors, dans le rétro.
Alors, le Grand Prix le plus glamour, un des plus attendus de la saison, tu l'as commenté la semaine dernière sur RMC, mon cher Jean-Luc. On va rappeler qu'évidemment, Daniel Ricciardo s'est imposé, tout le monde le sait, je pense, devant Sébastien Vettel et Lewis Hamilton. C'est vrai que c'est un podium royal, mine de rien, hein, Jean-Luc, parce que ce sont les trois pilotes qui, cette année, ont gagné les Grands Prix. Il n'y a pas eu d'autres vainqueurs.
Absolument, il faut le rappeler, tu as raison de le dire, et rappeler qu'à cette occasion, et on l'a bien dit, Daniel Ricciardo totalise le même nombre de victoires que ses prestigieux confrères de podium. Alors c'est vrai que c'est une belle revanche, cette victoire de Daniel Ricciardo, puisque il aurait dû l'emporter, rappelons-le, il y a deux ans, si son équipe Red Bull n'avait pas commis une erreur lors du changement de pneumatique. On sait que souvent à Monaco, c'est là que ça se joue, sur la stratégie. Il a eu un problème mécanique également en course, on l'a compris, sa machine avait baissé de performance à cause du système de récupération d'énergie électrique, enfin bref. Il a donc dû composer, il a dû se battre et il a su maintenir Vettel derrière. Alors, ce qui est plus inquiétant peut-être, et ça ne réduit pas la valeur de sa victoire, c'est qu'effectivement, même avec un problème mécanique, on dit même que ça l'aurait handicapé au point de perdre à peu près 25% de la puissance électrique, eh bien le pilote qui est derrière avec une Ferrari ne parvient pas à le dépasser, oui. Mais ça c'est Monaco.
Et c'est tout l'enjeu d'ailleurs de notre débat que je vais te proposer, parce qu'effectivement une question finalement un peu complémentaire se pose. Alors je te propose juste d'écouter Daniel Ricciardo, voilà, tout seigneur, tout honneur, au micro de Louis Amar et de Lucas Vinoy, la réaction du vainqueur de Monaco.
Now it feels real. Maintenant ça semble réel, je l'ai vraiment gagné. Le week-end a été long et cette journée encore plus longue. Je n'en pouvais plus d'attendre la course, j'avais tellement hâte que les feux s'éteignent et que ça commence. Ensuite on a eu un problème de puissance, c'était pas marrant, et franchement à ce moment-là je me suis dit que j'avais perdu la course et que c'était fini. Donc être là devant vous avec une victoire, ça fait du bien.
Voilà, on a retrouvé le sourire, il l'a pas perdu bien longtemps, hein, le sourire légendaire de Daniel Ricciardo, donc deuxième victoire cette année. Non Jean-Luc, il y a une campagne, hein, tu l'as vu comme moi, qui a été lancée depuis quelques jours sur les ondes, on va dire, un peu anglo-saxonnes, qui disent que cette victoire de Daniel Ricciardo est une victoire absolument sublime, une des plus belles de l'histoire de la Formule 1, car justement, il a été handicapé par un problème moteur non anodin, hein, qui lui coûtait beaucoup, et qu'il a su résister justement à tous ses adversaires, et que pour cela, donc, il mérite de rentrer dans le panthéon des plus grandes victoires de la Formule 1. Est-ce que ça te semble légitime ou un peu exagéré quand même ?
Écoute, tu parlais de campagne et tu as bien raison. Alors, si tu veux bien, un autre petit chiffre, Daniel Ricciardo avec cette victoire à Monaco, qui est quand même une des plus prestigieuses, évidemment, qu'un pilote peut décrocher, il a 7 succès au total. 7 succès, bah, c'est pas mal du tout, hein. Ça le met au niveau de René Arnoux et de Juan Pablo Montoya, tu vois.
Bah oui.
Et juste à un succès de Jack Hicks ou de Dennis Hulme, c'est quand même pas rien. Donc, c'est évident que Daniel Ricciardo acquiert un statut, mais que personnellement on ne lui a jamais refusé, bien au contraire. C'est pas parce que ce pilote ne snobe pas les autres et sympathique, enjoué, accessible, que pour autant il faut le dénuer de tout le talent qu'il mérite. Alors je vais répondre à ta question. Ben oui, on savait pas, on ne mesurait pas évidemment en cours d'épreuve l'ampleur du phénomène et du handicap qui le frappait. Alors dans le passé, c'est vrai qu'il y a eu d'autres pilotes à Monaco, Ayrton Senna, hein, je vais le citer, qui ont su résister très très longtemps à des attaques. C'est vrai que à Monaco, évidemment, on dit toujours il n'y a qu'une trajectoire, l'erreur ne pardonne pas. Donc si le pilote qui est en tête a du métier, c'est le cas évidemment de Daniel Ricciardo avec ses 135 départs en Grand Prix. Eh bien, on parvient à maintenir son adversaire. Alors, je mettrai un tout petit bémol, si tu veux bien, et je l'évoquais il y a un instant, c'est qu'à cause de la définition aérodynamique dynamique des monoplaces aujourd'hui, eh bien, même si avec le DRS et tout ce que tu veux, ce qu'a dit Vettel, tu peux te rapprocher du pilote qui te précède, mais tu ne peux pas l'attaquer véritablement. Oui. Donc oui, c'est un très grand succès, parce que c'est à Monaco, parce qu'il avait signé la pole, parce qu'il le méritait il y a 2 ans, parce que c'est le troisième homme de la bataille, si on veut bien, entre Hamilton et Vettel. Bon, faut peut-être pas trop en faire non plus.
Bon, alors, justement, ce que j'allais dire, tout le monde rappelle ce fameux Grand Prix d'Espagne en 1994. Donc là, on va faire une petite leçon d'histoire pour nos auditeurs. Un certain Michael Schumacher réussit à remporter ce Grand Prix d'Espagne en étant bloqué pratiquement tout le Grand Prix en 5e vitesse. Hein. C'est vrai qu'il pouvait pas utiliser d'autres rapports sur sa boîte de vitesse. Ça avait toujours semblé comme une victoire un peu surnaturelle de la part de Michael Schumacher. Est-ce que pour toi, Ricardo, ce qu'il a fait là, c'est du même niveau?
Alors si tu veux bien, j'en rajoute une.
Oui,
Ayrton Senna, tu la connais comme moi.
Au Brésil en 91.
Exactement,
c'est ça,
voilà, bien sûr. On va pas toutes les évoquer, mais c'est vrai qu'effectivement, une nouvelle fois, des pilotes qui ont dû, on va dire, composer, qui ont dû maîtriser un problème mécanique pour s'imposer, il y en a eu. Alors Monaco, je vais oser, c'est pas de la provoque et c'est pas pour contrer à chaque fois, mais je vais dire que c'est le circuit le moins difficile, le plus facile, comme tu veux, sur lequel on peut se livrer à ce genre d'exercice. Mm-hmm. Pour les raisons évoquées, encore une fois.
Ah oui.
Parce qu'il n'y a qu'une seule trajectoire, parce que la piste est étroite, parce que toute erreur est sanctionnée évidemment souvent par une élimination, un accident, un accrochage. Donc oui, c'est remarquable ce qu'il a fait, la tension à laquelle il, et puis surtout il devait craindre que ça s'aggrave encore un peu plus. Il y a eu quand même quelques remises en vitesse, notamment avec le virtual safety car, on va peut-être y venir, avec consécutivement, malheureusement, à l'accident de
Charles Leclerc.
Donc, voilà, il a fait le boulot remarquablement. Maintenant, encore une fois, pour moi, Daniel Ricciardo, il est capable d'être champion du monde. Je pense que si sa machine le lui permet, il a le talent pour le faire, donc on n'en attend pas moins d'un potentiel champion du monde que d'être capable de résister à ses adversaires dans les rues de Monaco.
Bah écoute, c'est ce qu'il commence lui-même à dire, hein. Faut me compter les gars, hein. C'est pas parce qu'Hamilton a 38 points d'avance sur moi, mais enfin ils sont ex aequo, voilà. Les trois, on l'a dit, avec 2 victoires chacun. Là c'est vrai que Ricciardo, on est bien obligé de l'inclure dans la shortlist, hein, des pilotes qui sont devant là.
Et oui, puis si tu veux, on se réfère toujours un peu, il est passé, non pas un peu dans l'ombre, mais il a quand même totalisé 8 podiums en 2017. Il termine donc 5e du championnat avec 200 points, Raikkonen en avait 205, alors bien sûr, devant, il y avait Hamilton, Vettel, évidemment, et puis Bottas, donc on se dit, oui, bon, c'est bien, mais c'est pas terrible. Je te dis, cette victoire en Grand Prix, moi, j'ai beaucoup de respect quand même, c'est énorme, avec une machine qui n'a pas toujours été la meilleure, tout le monde lui reconnaît justement un sens de la bagarre. C'est un battant, il ne lâche rien en course, il commet très peu d'erreurs. J'oserais dire cette année à l'inverse de son encombrant équipier Verstappen.
Mais c'est si brillotant et si nous le mettons aussi haut, c'est bien parce que Verstappen nous déçoit et Verstappen se plante. Et là, à Monaco, ça a été vraiment révélateur.
Écoute, là aussi, je réagis sur ce que tu dis. Et oui, il déçoit Verstappen. C'est une évidence absolue. Lui, il ne totalise que 35 points. Il est sixième au championnat. Puis il a commis beaucoup d'erreurs, notamment à Monaco, où il les enfile quand même comme des perles, hein, depuis quelques années. Là, il a détruit sa voiture. Donc avant les qualifs, il part dernier, il remonte 9e. Alors c'est formidable. Tu vas me dire, c'est le contraire de ce qu'on dit d'habitude. On ne peut pas dépasser à Monaco. Oui, mais quand on est...
Non.
Quand même, là aussi, un des plus talentueux du monde, lorsqu'on a quand même une Red Bull à moteur Renault qui, la preuve qu'elle fonctionne, et puis certains des adversaires ne sont pas beaucoup opposés, soyons clairs aussi, à la remontée de Verstappen.
C'est pas exceptionnel. Par contre, partir dernier à Monaco, c'est évidemment ce qu'il ne fallait pas faire. Il l'a fait, Verstappen. Voilà. Donc, effectivement, c'était...
Ah, il s'est pris les pieds dans le tapis monégasque. Pas le tapis du podium pour lui, mais
le tapis de la piscine. Je voudrais te faire entendre aussi cette réaction de Lewis Hamilton. Toujours leader du championnat du monde, à l'arrivée de Monaco, et tu vas voir qu'il évoque aussi un autre sujet qui est brûlant. On l'écoute.
Quelque chose doit changer dans cette course. Il pourrait arroser la piste, par exemple. Elle sécherait ensuite et ça nous obligerait à nous arrêter 2 ou 3 fois. En tout cas, le format doit être différent ici. Si à la maison, vous ne vous êtes pas endormi ou fâché devant cette course, c'est que vous n'êtes pas un vrai fan de sport automobile. La course, ce sont des dépassements, des incidents, des crashs, et il n'a rien eu de tout ça aujourd'hui.
Bon, on est bien obligé de constater qu'il a pas eu la langue dans sa poche, là, Lewis Hamilton. Sauf que, effectivement, il y a deux avis un petit peu qui s'opposent, hein, Jean-Luc. Il y a les puristes qui disent que, Monaco, c'est comme ça, on connaît les données du problème, on sait que ça double pas, on sait que les courses peuvent être ennuyeuses. mais que le cadre est tellement unique qu'il faut l'accepter, et puis à la rigueur, ça n'arrive qu'une fois par an. Et puis, bah, il y a ceux, finalement, comme Hamilton, ou même Alonso, qui a déclaré que ça a été la course la plus ennuyeuse de toute l'histoire de la Formule 1, mais qui ne s'en contentent pas, et qui ont critiqué, en tout cas, cette année, Monaco. Où te situes-tu?
Écoute, oui. tout est vrai. Alors, on commence par Monaco. Oui, Monaco n'a pas produit dans le passé que des grands prix passionnants. C'est vrai que c'est souvent, on le dit, hein, c'est souvent un défilé. Puis, pour les raisons largement évoquées, s'il n'y a pas d'incident extérieur, s'il n'y a pas de variation d'adhérence, s'il n'y a pas de pluie, allons-y, puisque justement Lewis l'évoque, et certains évoquent aussi le fait qu'on devrait parfois arroser une partie de la piste, voire toute la piste. Ça viendrait de manière aléatoire. Là, bon, ça devient un show. C'est toute la question fondamentale, et tu sais qu'elle me tient à cœur, de la Formule 1, de l'évolution de la Formule 1. Où va-t-on et pourquoi? Alors maintenant, je reprends un tout petit peu Lewis, que j'adore dans ses vraies déclarations de passionné qu'il est de sport mécanique et de Formule 1. S'il avait été devant, il l'aurait pas trouvé ennuyeuse, la course.
Oui.
Surtout avec des problèmes mécaniques ou électriques, enfin, comme on veut. Alors, en revanche, il a raison sur un point, c'est que ça n'était pas, avec les 6 pilotes qui étaient les 6 premiers sur la grille dans le même ordre à l'arrivée, on va dire, c'est du classique de Monaco quand il n'y a pas d'incident ou d'accident majeur parmi les meilleurs. Donc c'est quelque part normal. La Formule 1, je le dis et je le répète également chaque année, renie tous ses principes à Monaco. Tout ce qu'on nous dit le reste de l'année, c'est-à-dire sécurité maximale avec les run-off, etc., les rails et les murs à 300 mètres de la piste et tout ce que tu veux, eh bien là, à Monaco, on a exactement l'inverse. On a un tracé qui reste intrinsèquement très dangereux. Moi, je le dis et je peux en parler de manière claire après. J'ai toujours peur d'un carnage dans le tunnel à un moment ou à un autre, et notamment dans les premiers tours. Heureusement, parce que même avec la sécurité des monoplaces aujourd'hui, ce serait un véritable carnage, c'est une évidence. Si un des trois premiers se met en travers dans les trois premiers tours, je ne sais pas ce qui peut arriver derrière. J'en ai vu une année à l'époque où on avait le droit d'aller notamment pour les essais dans le tunnel, nous journalistes, c'est pour te dire.
Ah oui, ça semble incroyable.
Ça semble incroyable, mais c'était le cas. Et je vais être clair, et là aussi, je vais pas tout raconter, mais Gerhard Berger en était l'instigateur, malheureusement, puisque le moteur de sa Ferrari était soufflé aux essais. Et malgré ça, il s'est engagé, lui, Berger, dans le tunnel à 40 km/h, en sachant qu'il n'en sortirait pas. Et je peux te dire que derrière, les trois premiers sont passés, mais les trois suivants, non. Ça a été un carnage. Et heureusement, personne n'a été blessé. Les courageux commissaires, qui poussaient la Ferrari de Berger, ont réussi, comme dans une corrida, à échapper à la voiture qui est venue percuter celle de Berger.
Bref, ça fait frémir rétrospectivement, c'est le moins que l'on puisse dire.
C'était terrible. Donc ça veut dire que le danger potentiel à Monaco est là, quoi qu'on en dise, et on l'a vu, encore une fois, avec malheureusement Charles Leclerc. On sort du tunnel à 280-285 km/h avec la machine qui décolle presque, même si on a gommé un petit peu la bosse qu'il y avait à cet endroit-là. C'est un circuit très dangereux. Donc je reviens à ce que je disais. Oui, la Formule 1 renie tout ce qu'elle met en pratique ailleurs. Voilà.
Ouais, ok. Bon, Jean-Luc, on va enchaîner. Je te propose d'aborder la course des Français.
RMC Motors, le French's Corner.
Voilà, c'est une rubrique qu'on aime bien parce que il y a trois pilotes F1 quand même en activité, plus notre monégasque Charles Leclerc qu'on a un petit peu adopté dans ce clan. Et le vainqueur donc de Monaco, c'est Esteban Ocon qui remporte cette lutte interne entre les Français. Sixième Esteban Ocon. Je te propose juste d'écouter sa réaction, Jean-Luc, toujours au micro de Louis Amar. Non, alors bon, tu vas nous parler d'Esteban Ocon qui a terminé sixième. Donc vas-y, enchaîne. C'est son meilleur résultat cette année 2018.
Oui, écoute, la machine n'était pas au niveau, n'était pas à la hauteur de ce qu'il espérait lui-même et de ce qu'espérait Force India en début de saison. Elle est en train de revenir à force de travail. On rappelle que c'est une petite équipe. D'ailleurs, le patron de l'équipe et financier, Vijay Mallya, l'Indien, a des problèmes puisqu'il a été un peu débarqué ou contraint de démissionner.
Oui, c'est ça. Là, c'est tombé il y a deux jours. Il est plus vraiment directeur. Enfin, bon, toujours.
Il est en train de passer la main. Oui, hein, clairement, on dit que voilà, il y a un duo d'hommes d'affaires qui reprendrait. En tout cas, ce que fait cette petite équipe, moi je vais l'appeler britannique, évidemment, puisqu'elle est implantée en Grande-Bretagne, c'est remarquable. Avec des moyens très limités, avec certains très bons moteurs, le moteur Mercedes, tout le monde le sait, mais surtout là, où ils sont pas très bien partis, la voiture l'an dernier était magnifiquement dessinée, c'était la quatrième force du plateau, cette année ça n'est pas le cas, et puis une nouvelle fois, Esteban Ocon, il a dominé Sergio Pérez, et ça, c'est remarquable, Pérez qui ne termine que douzième, il a fait le boulot, il était l'homme le plus rapide rapide de en piste à un moment. Alors on vient d'en parler, on sait pourquoi, hein, tant mieux. Mais ça veut dire qu'il a de beaux espoirs et ça veut dire que sur un circuit là aussi de moteurs, de finesse aéro comme le Canada qui se profile à l'horizon la semaine prochaine, bah Esteban peut revenir, renouer avec les exploits et non d'achat ce premier podium qu'il attend et que nous attendons. Il est peut-être pas si loin que ça.
Voilà. Allez, on a retrouvé Esteban Ocon, donc on va lui donner la parole. Bravo pour sa sixième place au micro de Lucas Vignoy et Louis Amar.
C'était top, on avait une super voiture, à un moment je faisais les meilleurs tours en course, donc c'est vraiment génial aujourd'hui. On a eu un petit problème de frein à un moment sous le safety car, ça a surchauffé un petit peu. Peut-être que j'aurais peut-être pu attaquer les voitures de devant, mais super résultat au global et on est vraiment heureux.
Voilà, il est heureux, on l'est pour lui. En 30 secondes Jean-Luc, belle performance de Pierre Gasly, 7e avec une Toro Rosso et une gestion des pneumatiques qui a été assez incroyable de la part du jeune français.
Je pèse mes mots, en 30 secondes, tu l'as dit, c'est l'un des exploits du Grand Prix, pour moi, parce qu'effectivement, ce circuit est extrêmement difficile, au volant d'une Formule 1, il l'a dit lui-même, c'est autre chose que dans toutes les autres formules, tout arrive beaucoup plus vite, non seulement il n'a commis aucune erreur, mais gagner 3 places sur une grille comme celle-là, où il se passe pas grand-chose devant, c'est absolument remarquable. Alors là aussi, j'enfonce des portes ouvertes, tout le monde le dit, Pierre Gasly, il est de la race des plus grands. Dès qu'il aura une machine, et dès qu'il pourra démontrer à quel point il est talenteux, il le fera. Il ridiculise, j'allais presque dire, son équipier malgré l'accident. Voilà, le domine.
Voilà. Bon, écoute, je te propose d'en rester là. Merci beaucoup, Jean-Luc, parce qu'on essaye d'avoir Thierry Neuville au téléphone et donc on va lui donner la priorité dans quelques instants. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce Grand Prix de Monaco. Tu te prépares pour le Canada, c'est le week-end prochain.
Je suis chaud bouillant.
Un rendez-vous très sympa, franchement, avec un circuit qu'on aime bien, spectaculaire, et rapide.
Notre-Dame.
Un cadre, là aussi, qui sort un peu des normes. Donc, on a hâte d'ores et déjà de t'y retrouver. Ce sera le week-end prochain et c'est en soirée, forcément, décalage horaire oblige. Merci,
Jean-Luc.
Attention,
marmotte, il faut qu'elle se cache.
C'est ça. Je te souhaite une bonne fin de dimanche, Jean-Luc.
Merci
à la semaine
beaucoup,
prochaine
bonne émission, LFP. Allez, salut à tous.
Salut. Allez, Motors continue, vous l'avez compris, à tout de suite.
RMC Motors avec Motorsport TV. RMC jusqu'à 14h, Motors, Laurent-Frédéric Bollet.
Votre émission consacrée au sport mécanique qui continue. Nous accueillons maintenant un invité prestigieux.
RMC Motors.
120.
Le briefing avec Thierry Neuville qui est avec nous en direct, le pilote belge en tête du championnat du monde des rallyes. Bonjour Thierry.
Bonjour.
Merci de te rendre disponible Thierry. Là on peut le dire vraiment franchement parce que tu es d'ores et déjà pratiquement dans ton rallye d'Italie qui va se dérouler en Sardaigne. Tu es peut-être d'ailleurs en train de voyager pour aller en Sardaigne, c'est ça?
Tout à fait, c'est ça, actuellement à l'aéroport pour prendre l'avion direction Alghero.
D'accord, bon écoute, vraiment on t'intercepte au passage et c'est vraiment très sympa de ta part. Donc Thierry, tu es bien en tête du championnat du monde des rallyes depuis ta victoire au Portugal la dernière fois. Ça a été une victoire magistrale, j'ai même envie de te dire que ça a peut-être été une de tes plus belles victoires. Est-ce que tu ressens ça aussi comme ça?
Oui, voilà, ça a été une belle victoire, effectivement, surtout que quand on tient compte que mes concurrents principaux, ils ont marqué 0 points. Ça soit Sébastien Ogier, Otanak, Latvala, Mikkelsen ou Chris Meek, ils ont tous marqué 0 points et du coup, nous, on a quasi fait carton plein.
Alors, comment as-tu réussi à passer à travers les problèmes de ce rallye du Portugal quand tous tes adversaires ont eu un souci? Est-ce que toi, ça a été relativement tranquille ou est-ce que tu as eu beaucoup de frayeur quand même qu'on n'a pas su peut-être? Comment ça s'est passé de l'intérieur?
Il n'y a pas eu énormément de frayeur. C'est sûr que sur un rallye comme le Portugal, qui était assez creusé au deuxième passage et assez cassant, il y a toujours des petites frayeurs, il y a des pierres sur la route. Il faut éviter les pièges. On a bien géré, on était très à l'aise dans la voiture, qui était très compétitive ce week-end-là, qui nous a permis de gérer de A à Z notre course pour se mettre en avant et pour être déjà en tête après une première journée avec pas mal de balayage.
Oui, c'est ça, c'est ce fameux balayage où celui qui part devant est handicapé. On va en reparler d'ailleurs parce que si on conclut donc sur ce rallye du Portugal, eh bien donc tu as fait quasiment le grand chelem, il y a 30 points maximum à marquer pour un pilote à chaque rallye, les 25 points de la victoire et éventuellement les 5 points bonus pour la dernière spéciale si on la remporte. Toi, tu n'as fait que deuxième de la dernière spéciale, donc tu n'as marqué que 29 points. Mais enfin bon, c'est évidemment un carton plein pour toi et tu as maintenant 19 points d'avance au championnat sur Sébastien Ogier. Bon, j'imagine que t'es pas mécontent.
Ouais, c'est sûr que voilà, on est très satisfait de la situation actuelle. Maintenant, il faut en tenir compte qu'on est au 6e rallye. Maintenant, on attaque la 7e manche de 13 et qu'on est à peine à mi-championnat. Donc, il y a pas mal de courses difficiles qui vont venir pour nous maintenant, notamment la Sardaigne. On est en première sur la route, puis la Finlande où on a toujours manqué un peu de compétitivité. Donc, c'est sûr que ça va être deux événements ultra difficiles et ultra compliqués pour nous. Mais si on sort toujours en tête, déjà ici après la Sardaigne, je pense que c'est de bon augure pour sortir pour la suite.
Alors, est-ce que je me trompe en disant que c'est la première fois que tu es vraiment tout seul en tête du championnat du monde, ou est-ce que je fais une erreur?
Non, c'est juste, voilà, l'année passée, on était à égalité avec Sébastien après le rallye de Finlande. Et voilà, on avait plus de victoires que lui, donc on a dû ouvrir au rallye d'Allemagne. C'était une manche sur la trail, donc c'était pas un handicap, mais ici c'est vrai que ça va être la première fois pour nous. Non, c'est vrai, on a été au Mexique aussi, on a été en tête aussi, on a dû ouvrir aussi, mais effectivement, voilà, c'est assez nouveau pour nous, et on sait qu'on va avoir certaines difficultés de temps en temps en Sardaigne pour s'imposer.
Alors justement, oui, quelle est la nature de ce terrain en Italie et en Sardaigne? C'est vraiment handicapant pour le pilote qui va démarrer, qui va ouvrir la route pour tout le monde, en l'occurrence toi, vendredi prochain?
Oui, je pense que c'est le rallye le pire au niveau du balayage, après le rallye de Suède qui cette année était ultra compliqué aussi. Donc ça risque d'être difficile, c'est assez sablonneux au premier passage, pas mal de poussière, pas mal de pierres, et puis au deuxième passage, ça peut être très abrasif et le choix de pneu peut être ultra compliqué.
J'ai encore trois questions à te poser si tu veux bien, Thierry. T'as encore le temps là, t'embarques pas tout de suite.
Il nous reste 5 minutes. Donc,
j'essaye de te retenir un petit peu. Je te remercie vraiment encore. Je rappelle Thierry Neuville, un leader du championnat du monde des rallyes, avec nous en direct aujourd'hui dans Motors. Bon, ben nous, tu sais que côté français, bien sûr, on suit peut-être Sébastien Ogier en priorité, mais là, on se dit qu'il y a vraiment un grand adversaire sur sa route. Tu t'attends à un duel avec Sébastien ou une bataille à trois avec le pilote Toyota estonien Ottanak, qui lui aussi, évidemment, est très fort.
Ouais, tout à fait. Je pense que c'est une bataille à quatre qui voilà, de peu à peu, on arrive à creuser un petit peu. Mais maintenant, c'est vrai que l'adversaire principal reste Sébastien Ogier. C'est l'homme à battre ces dernières années. Et on a souvent été proches. L'année passée, on était très très proches. Mais voilà, cette année, on essaie de faire mieux et de s'imposer à la fin de l'année.
Il y a eu 4 voitures engagées par la marque pour laquelle tu cours, hein, Hyundai. 4 voitures au rallye du Portugal. Et vous êtes la seule grande équipe à avoir aligné 4 pilotes. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est un plus pour vous et pour toi en particulier?
Non, je pense pas que c'est un plus, mais c'est pas un handicap non plus. C'est pas un désavantage. Voilà, c'est la philosophie, c'est la stratégie d'Hyundai. Je pense qu'elle est pas mauvaise, surtout au niveau du championnat constructeur. Maintenant, c'est vrai que voilà, de temps en temps, avoir une voiture en plus demande encore plus de travail pour les mécanos et pour l'équipe, mais plus d'organisation. Mais voilà, Hyundai, ils ont l'habitude, ils gèrent plutôt pas mal.
Dernière question, Thierry, si tu veux bien, je suis obligé de te la poser. La nouvelle de la semaine dans le championnat du monde des rallyes, c'est le fait que Chris Meek, le pilote numéro 1 chez Citroën, a été un peu viré, on va dire ça comme ça, hein, écarté. Est-ce que tu as une réaction à nous donner sur cette éviction de Chris Meek de chez Citroën?
Non, voilà, je pense que je suis pas dans une situation à pouvoir commenter vraiment cela. C'est sûr que si Citroën a pris cette décision-là, c'est qu'ils ont dû avoir des raisons. Et voilà, je pense que Chris est un très très bon pilote, un pilote très très rapide. Mais de temps en temps, il a manqué de réussite aussi, et voilà, ça lui a un peu coûté sa carrière, mais ça fait partie du rallye et il faut vivre avec ça.
Ok, je te remercie vraiment beaucoup, Thierry, de t'être rendu disponible pour nous. On a compris que c'était pas facile, mais tu l'as fait, et on te souhaite évidemment une très très bonne semaine et un très très bon rallye d'Italie Sardaigne, et à bientôt, j'espère, Thierry.
Merci à vous.
Allez, au revoir. Thierry Neuville, mesdames et messieurs, qui était donc avec nous, actuel leader du championnat du monde des rallyes. Évidemment, ça ne se refusait pas. On va enchaîner avec un autre invité prestigieux dans Motor, c'est Hugues de Chenac, qui est avec nous depuis Le Mans. Bonjour Hugues.
Bonjour.
Merci de vous être rendu disponible. Merci d'avoir patienté un petit peu le temps que on remercie Thierry Neuville. Hugues de Chonac, évidemment, grand monsieur de l'automobile, patron du groupe Oreca. Oreca qui est présent, évidemment, à de nombreux niveaux en endurance. Et aujourd'hui, eh bien, Hugues, c'est la journée test en prélude aux 24 heures du Mans qui auront lieu dans 15 jours, la 86e édition. Ma première question, Hugues, c'est au niveau météo. J'entends partout qu'il y a des orages qui sont annoncés ou qui menacent un peu le côté ouest de la France. Ça se passe bien au Mans? Parce que vous êtes en direct du Mans, bien évidemment.
Absolument. Bah, écoutez, ça a bien commencé avec un beau ciel bleu et puis ça s'assombrit. Donc on sait qu'on va avoir un orage vers 16h, à peu près entre 16 et 17h. Mais pour le moment, c'est sec, donc bon, on essaye de profiter de la piste sèche.
Ok. Alors Hugues, bah, je profite de votre expérience, de votre expertise, hein, pour vous poser pas mal de questions avant ces 24 heures du Mans qui se profilent. Déjà, ce matin, est-ce que tout s'est bien passé? Tout le monde a bien roulé? Là, je parle au niveau même global, hein. Je vous demande éventuellement un avis général sur tout le monde. Vous avez observé tout s'est bien passé pour tout le monde? Il n'y a pas eu d'incident?
Oui, non, écoutez, il n'y a pas eu d'incident. Tout s'est bien passé. Et puis, vous savez, la journée test est une journée très importante parce que le circuit du Mans est un circuit totalement atypique qu'aucun autre circuit au monde ne reproduit, avec de grandes lignes droites, des chicanes, des virages qui sont extrêmement rapides. Et donc la journée test, elle est quasi fondamentale pour trouver les bons réglages pour la semaine du Mans. Donc on travaille et c'est ce qu'il faut faire, ce que fait à peu près tout le monde.
Alors, l'affiche de cette année, c'est Toyota, un petit peu seul contre tout le monde, peut-être même seul contre elle-même, hein, parce que on sait que cette équipe n'a jamais gagné Le Mans. Vous, Hugues, est-ce qu'on va vous trouver dans le stand Toyota comme ces dernières années, cette année?
Alors écoutez, vous n'allez pas me trouver dans le stand Toyota, mais bien que je croise très 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 fort les doigts pour que ce soit enfin leur bonne année, mais je vais coiffer ma casquette de boss d'Oreca et donc de constructeur de voitures.
Oui.
Et on est cette année présent en LMP1 avec Rébellion.
Oui.
On a construit en un temps record, c'est-à-dire en 6 mois à peine, 2 LMP1 pour Rébellion. Et donc, évidemment, elles vont être un peu en compétition, mais les voitures sont très très jeunes, donc il faut être réaliste. Je pense que c'est vraiment l'année Toyota, mais c'est en même temps très important pour Rébellion pour se préparer pour l'avenir. Et puis, à côté de ces LMP1, il y a près de 10 LMP2 Oreca qui sont là, qui elles vont jouer carrément la gagne.
Bon, alors, d'un point de vue pratique, si j'ose dire, on vous trouve plus chez Rébellion cette année que chez Toyota. Parce que vous avez quand même eu des liens avec Toyota. Et vous en avez peut-être toujours.
Oui. Et on en a toujours, puisqu'on a un partenariat technique pour l'exploitation en course. Et donc, j'ai notre directeur technique et une quinzaine de techniciens, enfin, ou de mécaniciens qui sont là-bas. Et puis, de l'autre côté, on apporte tout notre support technique à l'équipe Rébellion, Rébellion, mais là c'est la casquette de constructeur, et donc ce sont tous les ingénieurs que l'on a chez nous qui sont là pour travailler sur la voiture. Alors on est réaliste, mais de l'autre côté, après cette première matinée, ça se passe pas trop mal. On s'intercale avec les Toyota.
Quel est votre avis sur les performances attendues? On sait quand même qu'a priori Toyota doit gagner. On ne sait pas si Toyota va gagner, mais Toyota a une certaine protection au niveau réglementaire par rapport aux autres voitures de la catégorie P1. J'essaie là de résumer le plus globalement pour que le grand public comprenne bien. Est-ce que ça vous semble normal, légitime, juste? Est-ce que ça veut pour autant dire que Toyota a forcément course gagnée? Qu'est-ce que vous en pensez, Hugues?
Alors, d'abord, Toyota, non, on n'a pas du tout course gagnée. C'est une situation qui est compliquée et difficile pour le législateur sportif de trouver un bon équilibre, justement, ce qu'on appelle une équivalence de technologie entre une technologie hybride qu'a développée Toyota depuis 5-6 ans, qui est extrêmement sophistiquée, et des voitures qui ne sont pas du tout hybrides, donc moteur atmosphérique ou turbo comme nous, et donc avec beaucoup moins de technologie. Donc le législateur essaye de trouver un juste équilibre, premier point. Le deuxième, c'est qu'il faut reconnaître en même temps que, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous avons fait une voiture dans un délai très court, donc on n'a encore pas beaucoup d'expérience. Et donc il faut être réaliste. Et comme je crois que vous l'avez dit au début, Toyota ne peut être battu que par soi-même. Oui. C'est-à-dire, c'est sûr que si Toyota fait la moindre faute, nous comme nos concurrents en moteur atmosphérique seront là, mais s'ils ne font pas de faute, leur technologie les met à l'abri en termes de performance.
D'un strict point de vue d'observateur, Hugues, que pensez-vous de la présence de deux champions du monde comme Fernando Alonso, donc chez Toyota, hein, évidemment pilote vedette, mais Jenson Button est également là au sein de l'équipe russe SMP, on le retrouvera aussi en LMP1. Est-ce que pour vous, c'est évidemment une très très bonne nouvelle d'avoir ces deux grands champions présents au Mans cette année?
Oui, je pense que c'est évidemment très bien pour l'endurance. Ça veut en même temps dire que ces grands champions, et j'irai encore un peu plus Fernando Alonso qui est toujours en Formule 1, que ces deux grands champions soient au Mans et viennent se battre contre des spécialistes. Où on a deux grands spécialistes, anciens vainqueurs du Mans et anciens pilotes Porsche, que sont André Lotterer et Neil Gianni. Et c'est formidable que ces pilotes puissent venir se battre avec nos pilotes d'expérience. Et c'est formidable pour l'endurance. Et vous allez voir que les 24 heures, c'est les 24 heures, et je suis vraiment bien placé pour le savoir. Oui. Rien n'est jamais acquis jusqu'au dernier moment. Rappelez-vous,
Chez Toyota, justement.
À 10 minutes de l'arrivée, j'avais un énorme sourire. Et à 3 minutes de l'arrivée, c'était l'inverse. Le truc incroyable qui arrive. Donc au Mans, il peut arriver tellement de choses que il faut vraiment être patient jusqu'à la dernière minute, et c'est très long.
Oui, c'est vrai que je me souviens, Hugues, vous le savez, vous voyez peut-être ce que je vais vous dire, vous aviez écrasé des larmes, hein, qui n'étaient pas évidemment factices. C'était un incroyable coup de théâtre de voir cette Toyota s'arrêter à un tour près il y a deux ans. Et pour vous, ça avait été quelque chose de très dur à vivre.
Oui, très dur à vivre. Et c'est vraiment l'expression, le ciel vous tombe sur la tête. Ouais. J'ai vécu ce jour-là. C'était incroyable parce que dans les 10 dernières minutes, vous pouvez pas vous empêcher de vous dire qu'avec un tour d'avance, la course est gagnée et à vous projeter sur le lendemain. Mm-hmm. Et puis, l'incroyable arrive. C'est pour ça que là, ça donne encore plus, si vous voulez, de maîtrise. Ça vous oblige à avoir encore plus de maîtrise de soi. Et tout peut arriver jusqu'au dernier moment, une panne mécanique. Et puis là, Toyota, il n'y a que deux voitures. Sur les 24 heures, c'est très long.
Oui, ils en ont deux.
C'est 5000 kilomètres où il faut doubler les voitures sans arrêt, où il y a la nuit, le jour, où il y a le soleil qui se lève, le soleil qui se couche, la pluie, la grêle, il faut passer au travers.
C'est ça.
Et c'est énormément de pression. Beaucoup plus qu'un sprint.
Oui, c'est ça. Dernière question, Hugues, si vous le voulez bien. L'équipe un peu qui fait l'événement en LMP2, la deuxième catégorie des prototypes de par son propriétaire, finalement, c'est le Jackie Chan DC Racing. Alors aussi parce qu'ils l'an dernier, ils ont crevé l'écran et qu'ils étaient en tête à 3 heures de l'arrivée. Et puis Jackie Chan, évidemment, c'est une célébrité mondiale. Alors, l'équipe principale Jackie Chan, elle est avec vous, il y a deux heures et quart, mais je vois sur la liste des engagés qu'il y a une autre équipe Jackie Chan avec des Ligier cette fois. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus?
Oui, il y a une autre équipe qui est en fait une équipe avec des pilotes qui ne sont pas du niveau de ceux qui étaient là l'année dernière et de ceux qui sont cette année. Ils ont fait une troisième voiture parce qu'ils ont bénéficié d'une invitation grâce à leurs résultats l'année dernière, et ils ont fait donc une troisième voiture, mais qui n'est pas là pour chercher la performance.
D'accord, ok, c'est ça. Bon, je comprends mieux. En tout cas, vous êtes bien avec l'équipe, on va dire, 1 de Jackie Chan, et évidemment, ça sera la tête d'affiche en LMP2, même si on suivra Alpine, bien sûr, côté français, ça c'est sûr. Panis Barthez, quelle belle équipe aussi qui sera là. Bon, eh bien, je vais vous libérer, Hugues. Je vous remercie vraiment beaucoup de vous être rendu disponible, parce que là aussi, il n'y a qu'une heure de pause au Mans dans cette journée.
Absolument.
Et donc, merci de nous avoir réservé un petit peu de votre temps.
Non, écoutez, avec grand plaisir, et puis surtout, suivez bien Le Mans, ça va être super chouette.
Bien sûr. Merci, Hugues de Chonac, en direct depuis Le Mans. À très bientôt, Hugues, bien évidemment.
À très bientôt, merci.
Voilà, Hugues de Chonac en direct depuis Le Mans, et les initiés peut-être en matière de sport savent que de Chonac, ça n'est pas un nom qui est inconnu dans le monde du tennis, puisque Hugues le papa d'un ancien joueur qui s'était distingué au niveau français, ce qui nous fait une transition idéale pour parler de Roland Garros.
RMC Roland Garros 2018.
On va faire un petit tour du côté de la porte d'hôtel avec Eric Salio qui est avec nous. Salut Eric.
Bonjour.
C'est vrai que le prénom du fils de Chonak là m'échappe un petit peu, mais tu t'en...
Mais moi aussi, j'y pensais. C'est un garçon très sympathique en plus.
Oui. Attends, il a eu son heure de gloire. Je me souviens, c'est pas un US Open où il avait brillé ou alors...
Il avait gagné un grand match, oui, je me souviens, en grand chelem, mais il faut que je retrouve son activité, mais c'est un garçon très sympathique.
Voilà,
je voulais c'est pas Sébastien de Chonak, absolument.
Oui, tout à fait. Absolument. Écoute, je voulais pas te piéger, mais en parlant à Hugues, je me suis dit, bah là, la transition, elle va être toute trouvée par rapport au tennis. C'était donc bien le papa que j'avais, et toi tu as dû commenter à une époque le fiston. Bon, allez, tout ça pour nous dire qu'est-ce que ça donne là en ce moment entre Tim et
On a deux gros matchs sur les deux courts principaux, avec notamment Dominique Thiem, l'un des gros outsiders de ce tournoi, qui est en train de, passez-moi l'expression, dérouiller entre guillemets Kei Nishikori. Ah oui, 6-2, 6-0. C'est pourtant pas n'importe qui, Nishikori, hein.
Oui,
c'est un garçon qui a fait finale en grand chelem, pas sur terre, ok, mais quand même. Et donc Nishikori est aux abois. Il mène quand même 2-1 au troisième set. Peut-on espérer une réaction de Nishikori? J'en doute fortement. Et puis, Karen Khachanov. Vous vous souvenez, celui qui a éliminé Lucas Pouille hier.
Oui.
Eh bien, il mène 2-1 face à Alexander Zverev, comme l'Allemand, tête de série numéro 2. Donc, le Russe est en train de causer une énorme sensation sur le court Suzanne Lenglen. On est donc au milieu du quatrième set. Il y a 3-2 Zverev, mais c'est Khachanov qui est au service. Et donc, il n'est pas très loin, peut-être, de signer la plus grosse perte de sa carrière.
Écoute, ça, c'est des nouvelles très, très inattendues d'un côté et très intéressantes de l'autre. Bon, tout ça pour dire, mon cher Eric, évidemment, on va te retrouver très, très vite depuis Roland-Garros pour que tu nous en dises un petit peu plus. À tout à l'heure, Eric. Allez, Motors continue. Aurélien Thiersin m'a rejoint. Salut Aurélien.
Salut LFB, bonjour à tous.
Bon, tu es prêt pour nous parler de MotoGP?
Absolument.
Hein, c'est l'événement dans un quart d'heure.
On a préparé la combi.
Voilà. Bon, écoute, tu nous dis tout. Motors continue. À tout de suite.
RMC jusqu'à 14h. Motors. Laurent-Frédéric Bollet.
On parlait F1 tout à l'heure, hein. Évidemment, on revenait sur le Grand Prix de Monaco, on parlait du Grand Prix du Canada. Je voudrais juste vous signaler que le 24 juin prochain, donc c'est mine de rien dans 3 semaines, hein, il y aura le Grand Prix de France qui fait son retour au calendrier. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'RMC délocalisera son antenne au Grand Prix de France, au Castellet, avec les émissions qui se dérouleront en direct de là-bas. Donc RMC, partenaire du Grand Prix de France le 24 juin prochain, c'est évidemment une très très bonne nouvelle. Allez, la dernière partie dans Motors aujourd'hui.
RMC Motors. Radio Paddock
avec Aurélien Thiersin qui est avec nous. Alors j'aime bien parce que le jingle, tu reconnais, hein, c'est la voix de Lewis Hamilton qu'on a utilisé
assez peu souvent sur une moto.
Voilà, parce qu'on va parler MotoGP et d'un champion à l'autre. Aurélien, tu regardes comme moi les images depuis quelques instants au Mugello avant ce Grand Prix d'Italie. Je ne vois que du Rossi depuis 5 minutes.
Ah, c'est la star nationale, voilà, le dieu vivant là-bas.
On a compris qu'il y avait Valentino Rossi et les autres. Alors, on va en parler dans quelques instants de Valentino Rossi parce qu'en plus, il est très très bien placé sur la grille, je dis ça juste pour démarrer. Non, les résultats du matin quand même. L'actu du Moto 3 et du Moto 2.
C'est donc voilà le circuit du Mugello sur le Grand Prix d'Italie, la 6e manche de la saison. En Moto 3, victoire de l'Espagnol Jorge Martin devant l'Italien Marco Bezzecchi qui est le leader du championnat du monde. Martin, c'est le deuxième, donc grosse bataille entre les deux. En troisième position, un autre Italien, Fabien Di Gianantonio. En Moto 2, victoire, la première de sa carrière du Portugais Miguel Oliveira. Derrière lui, en deuxième position, Lorenzo Baldassari, un Italien. Troisième, Joan Mir, l'Espagnol dont on reparlera également tout à l'heure. Et quatrième, Bagnaia, Federico Bagnaia, le leader du championnat du monde, a noté une jolie 11e place pour le français Fabio Quartararo.
Ah, c'est bien, Quartararo.
C'est pas
Fabio
mal.
Qui était 12e au championnat, là, c'est quand même assez
ça
solide.
C'est une jolie performance.
Effectivement. Ouais. Par contre, en Moto 3, je voyais, les 4 premiers du championnat étaient groupés en 8 points. Martin était 4e à 8 points. Je crois qu'il se place maintenant 2e du championnat.
Mais enfin, juste bon, derrière Bezzecchi.
Ouais, c'est ça. C'est chaud. Alors, je crois que t'as vu l'image, il y a un lièvre qui a traversé la piste.
Non, je l'ai raté celui-là.
Ouais, il y a un lièvre qui a traversé la piste pendant la course Moto 3, donc évidemment ça a dû faire une frayeur, et c'est Martin qui était le premier devant le lièvre. Et puis du côté des vidéos qui ont fait le tour du monde, enfin je sais pas si celle du lièvre fera le tour du monde, en tout cas celle qui ont fait le tour du monde dans le week-end. Bon, c'est vrai, il faut parler de l'accident de Michele Pirro en essai au MotoGP.
Ouais.
Il y a des nouvelles, il est à l'hôpital, mais ça va quand même.
Rassurante. Ouais, il s'était donc une chute à 350 km/h dans une des lignes droites du Mugello. Il a perdu le contrôle de sa moto, il est passé par-dessus, il est complètement désarticulé,
bon,
on l'a vu faire des tonneaux sur lui-même. Luxation d'épaule droite, ça a été remis directement sur le circuit, une commotion cérébrale. Donc on va dire que pour un pilote de MotoGP, c'est du classique entre guillemets, et donc nouvelle rassurante, tout va bien pour lui, même si évidemment, il ne courra pas cet après-midi puisqu'il va va falloir se reposer un petit peu.
Oui, ce sont des surhommes, mais peut-être pas quand même jusqu'à un certain point. Alors, cette grille de départ...
Il est même sorti de l'hôpital et il est présent dans les stands.
Ah d'accord.
Ah, bah, donc tiens, il verra la course de très près.
Ouais, ouais, bah ça c'est bien. Michele Pirro donc était un peu en wild card, comme on dit, pour ce Grand Prix d'Italie au Mugello, sixième manche champion du monde. Alors, la grille de départ, effectivement, Aurélien, est-ce que tu peux, à 10 minutes du départ de ce Grand Prix, nous la détailler?
Alors, en pôle, Valentino Rossi, l'Italien, la 55e de sa carrière, à 39 ans, il n'avait pas connu ça cette saison. Encore en première ligne avec lui, deux Espagnols, Jorge Lorenzo à la deuxième place, Maverick Vinales, troisième. En deuxième ligne, Andrea Iannone, l'Italien, avec un autre Italien, Danilo Petrucci, cinquième. Marc Marquez, le leader du championnat du monde, est sixième. En troisième ligne, Andrea Dovizioso sur Ducati, Cal Crutchlow, le Britannique, et Johan Zarco, le Français.
Donc un petit peu décevant
de leur trouver en fond de troisième ligne. Et la quatrième ligne, notamment avec Alex Rins, l'Espagnol, Jack Miller, l'Australien, ou encore Franco Morbidelli, l'Italien.
Bon, écoute, si on reprend un petit peu dans l'ordre, bon, bah, évidemment, honneur à Rossi, forcément, chez lui. Alors c'est vrai, Zarco en pôle au Mans, Rossi en pôle au Mugello. Bon, ben les histoires sont belles en MotoGP, mais on a bien vu et on sait que c'est pas forcément acquis pour celui qui part en pôle.
Voilà, en moto effectivement, ça veut c'est moins parlant qu'en Formule 1, voilà. C'est plus facile de doubler.
Surtout que les écarts là sont faibles, hein, tu me le confirmes. Hein. Il y a quelques dixièmes seulement, je crois, entre Rossi et Marquez, et quelques centièmes seulement pour la première ligne. Donc ça, on sait que oui, c'est ça se joue à rien du tout. Première pôle depuis le Grand Prix du Japon 2016 pour Valentino Rossi. Bon, allez, on va dire un petit 2 ans d'attente, voilà. Et est-ce que ça va être sa première victoire depuis la dernière? Donc, c'est Assen, le Grand Prix des Pays-Bas en 2017.
En 2017.
Et là, ça va faire un an tout juste pratiquement. Hein.
Ouais. Et là, ça serait effectivement énorme qu'il remporte ce Grand Prix d'Italie. Ce n'est plus arrivé depuis 2008. Pourtant, Rossi l'avait gagné de 2002 à 2008. Dès son arrivée en MotoGP, il avait gagné donc 7 fois de suite sur son Grand Prix national. Et puis ensuite, terminé pour l'Italie jusqu'à l'année dernière avec Andrea Dovizioso. Donc, pourquoi pas le retour de Valentino Rossi? Après les Yamaha cette saison de Valentino Rossi et je vais retrouver son coéquipier Maverick Vinales, n'ont jamais été vraiment en mesure de remporter une course cette saison, donc ça serait quand même une surprise de voir Rossi s'imposer.
Bah oui.
Voilà, à 39 ans, il réalise quand même la 55e pole de sa carrière chez lui, pourquoi pas terminer sur un feu d'artifice, maison devant tous ces tifosi, ils sont complètement fous évidemment le public italien de voir Rossi en pole position.
Il est quatrième au championnat Valentino Rossi à 39 points de Marc Marquez qui a quand même fait le break. Hein, faut pas se leurrer. 3 victoires cette année, les 3 dernières.
Ah bah là au Grand Prix de France, ça a complètement fait la différence avec un strike derrière lui de ses adversaires et puis Johan Zarco qui a abandonné également.
Donc l'enjeu aujourd'hui, mais ça tu crois pas si bien dire, c'est est-ce que Andrea Dovizioso et surtout évidemment qui nous intéresse plus Johan Zarco vont rebondir après leur désillusion, leur déception au Mans. Alors Zarco, la déception bien sûr, elle était là, palpable, comptable, parce que voilà, on le voit par terre. Maintenant, dans un week-end où il a fait la pole, où il a pu effectivement mesurer une notoriété, mais complètement dingue, hein, t'as vu, c'est vraiment maintenant notre héros français de la moto de vitesse, avec une politique, j'allais dire, de course assumée. Sous-entendu, je n'assure pas, j'y vais, je veux gagner, hein, Johan Zarco, peut-être même était-il un peu en surpilotage, il l'a reconnu.
C'était pas en France, peut-être aurait-il mieux géré la pression autour de lui. Mais
peut-on tout à fait le lui reprocher aussi? Allez, oui, peut-être d'un point de vue comptable, mais au niveau,
un jeune pilote de très haut niveau.
C'est ça. Bon, donc moi j'ai tendance à penser que son week-end n'a pas été négatif. Il a un peu voulu mettre le feu aux poudres. Il l'a fait en partie. Ça n'a pas été au bout, mais voilà, Zarco s'est encore plus positionné, si j'ose dire, dans l'échiquier du MotoGP.
Il serait quand même inspiré de faire un résultat parce que le souffle est un petit peu retombé tout, parce qu'après la pole, évidemment, on parlait que de lui.
Oui.
Et cette chute en début de course, un petit peu pour le grand public, décroche un petit peu.
Mais troisième au championnat.
Oui,
il est troisième au championnat. Il est devant beaucoup d'écart
avec Marc Marquez désormais. Et ça, c'est un petit peu dommage. Avant, il était tout juste derrière, donc ça serait bien de recommencer à faire un très beau résultat au Mugello.
Bon, allez. De toute façon, la question, elle est toujours posée. Hein. C'est pas s'il va gagner un Grand Prix Zarco, c'est quand? Effectivement, et pourquoi pas aujourd'hui, hein, ça va être un des enjeux. Alors, il y a d'autres news en MotoGP cette semaine qui sont tombées.
Oui,
ça a commencé. Ouais.
Avec notamment le départ de Jorge Lorenzo qui va quitter Ducati, l'écurie italienne. Ça a été dit par un des directeurs de l'écurie, ça n'a pas encore été officialisé avec un communiqué de presse, mais a priori, ça serait un autre Italien, Danilo Petrucci, enfin un Italien qui va remplacer l'Espagnol Danilo Petrucci, un guidon de Ducati la saison prochaine. Voilà, Jorge Lorenzo qui touche un très très gros salaire à Ducati, qui devait faire passer un cran à cette écurie. C'est un petit peu raté.
Déjà, en arrivant au Mugello, Lorenzo a dû démentir des news et des rumeurs de retraite.
Il a 31 ans.
Oui, voilà, c'est vrai qu'on se dit, bon, d'accord, c'est vrai qu'il est 15 triple champion. Oui, oui. Voilà. Triple champion du monde en MotoGP en 2010, 2012, 2015. C'est vrai qu'il fait un peu ancien maintenant, Lorenzo, mais il n'a que 31 ans. Il avait été très précoce, à vrai dire. Donc déjà, il a dû démentir des rumeurs de retraite. Et puis, on sait, maintenant, c'est un secret de polichinelle, même si c'est pas officialisé par un communiqué, mais qu'il va quitter Ducati. Alors, est-ce que c'est chez Yamaha? Est-ce que c'est dans une équipe un petit peu bis, un petit peu milieu de plateau? Bon, affaire à suivre, mais enfin, Lorenzo va bouger en fin d'année. Iannone aussi, on a appris, il va quitter Suzuki.
Oui.
André Iannone, qui a fait podium cette année, donc, et qui est septième au championnat, donc c'est pas une nouvelle anodine. A priori, il va être remplacé par Joan Mir.
Oui, l'Espagnol
que tu as cité, voilà, notre
tout à
lien.
Qui a terminé troisième, donc, de la course en Moto 2, champion de Moto 3 l'année précédente. Voilà, un jeune pilote, qui a du potentiel, mais un petit peu comme tous les jeunes Espagnols qui sont sortis depuis quelques années, les Maverick Viñales ou Marc Marquez un petit peu avant. On va voir ce que ça va donner chez Suzuki.
Pourquoi je te dis Mir est dans le viseur des grands constructeurs quand même, parce que arriver chez Suzuki, évidemment, c'est une grande nouvelle. C'est pas parce qu'en ce moment, là, il est en train de briller en Moto 2. Non, il vient de faire son premier vrai résultat. Il était septième au championnat en arrivant ici. C'est bien parce que l'an dernier, il a écrasé la Moto 3, tout comme l'avait fait Marc Marquez il y a quelques années. Et pour les observateurs, ça a l'air d'être un signe qui ne trompe pas. Attention, pépite. Tu rajoutes la nationalité espagnole. On sait que c'est un petit peu la nationalité qui compte en MotoGP et dans le monde de la moto. Donc oui, Joan Mir est sur orbite, ça c'est sûr.
Un petit mot d'IndyCar peut-être,
Voilà,
pour dire que Simon Pagenaud a terminé 6e des 500 miles d'Indianapolis la semaine dernière. Pour toi, c'est le meilleur résultat d'un Français depuis 1920.
La dernière victoire à Indianapolis, c'est Gaston Chevrolet, connu, mais qui était de nationalité française ensuite, qui a été naturalisé américain, qui a gagné à Indianapolis. Et la 6e place de Simon Pagenaud, pour moi, en revoyant mes fiches, c'est la meilleure place d'un Français depuis pratiquement un siècle. Donc évidemment, il n'y a pas de victoire qui serait historique, mais il y a une prestation solide. Simon a été aux avant-postes pendant toute la course, dans le top 3, et au bout du compte, il fait 6. C'est formidable. Sébastien Bourdais également a fait une très très belle course. Il partait 5e sur la grille. Donc bravo à nos deux Frenchies des États-Unis, de la monoplace aux États-Unis, l'IndyCar, qui en plus, alors pas de relâche, ils étaient à Indianapolis il y a 5 jours, ils sont à Détroit. Voilà, au Mans, ceux du Mans vont se reposer 2 mois, si j'ose dire, à Indianapolis. Donc on enchaîne et on est à Détroit le week-end qui suit. Bon, voilà, je crois qu'on a tout dit. Merci Aurélien pour toutes ces nouvelles dans le monde des sports mécaniques.